9h21 minutes. Notre invité ce matin, Dr Joanne Liu, est pédiatre, vous le savez, et surtout présidente internationale de Médecins sans frontières, et elle termine son mandat. Elle est à la tête de l'organisation depuis 6 ans. Dr Liu, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que votre mandat va se terminer bientôt.
Oui.
Et c'est un mandat quand même qui vous a amené évidemment à voyager, à prendre connaissance de cette réalité du monde. En 6 ans, qu'est-ce qui a changé, selon vous? Pour l'aide humanitaire, pour des médecins comme vous qui intervenez dans différents pays, dans le cadre de différents conflits?
Je crois que ce qui a changé, c'est vraiment l'environnement de travail. Et on se retrouve aujourd'hui dans une dynamique où l'acte humanitaire et l'humanitaire est criminalisé. Donc, j'appelle ça, moi, l'humanitarisme sélectif. Donc, quand ça fait l'affaire des pays, on nous tolère. Quand ça ne fait pas leur affaire, on se fait intimider. Puis quand ils sont vraiment pas contents qu'on soit là, ben on est carrément attaqué.
Avez-vous des exemples en tête de ça?
Mais par exemple, si on prend la Méditerranée, puis les sauvetages en mer, Médecins sans frontières a eu 3 bateaux en 2015, plus de 60 000 personnes ont été sauvées en mer. Et on a été quand même intimidés, attaqués par des gardes côtiers libyens. Par la suite, on a eu des procès. Notre personnel est toujours en cours de procès présentement en Italie. On a des manifestations devant notre siège social à Rome régulièrement. Et tout dernièrement, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on nous dit les gens qui vont ramener des migrants par bateau, on va leur donner une contravention. Et je dis toujours, c'est comme si on avait ici un ambulancier qui arrivait avec un patient au CHUM, puis qu'on lui donnait une contravention parce qu'il amenait un patient malade. C'est n'importe quoi. On marche sur la tête.
Ça veut dire qu'on vous reproche finalement d'intervenir pour sauver des vies. Et parfois on tolère, comme vous dites, puis parfois là, on tombe dans la répression brutale.
Effectivement. Mais je pense que on ne prend pas bien la mesure du fait qu'aujourd'hui, en Méditerranée, il est vraisemblablement illégal de sauver des vies. C'est pas n'importe quoi.
Et là, vous parlez de quoi? L'Italie, la Libye?
Mais des pays qui sont autour de la Méditerranée, aujourd'hui, c'est répression. On essaie le plus possible de renvoyer les gens en Libye. Les gens, on sait aujourd'hui que c'est la guerre en Libye. Et la seule chose qu'on devrait faire de la Libye, pour avoir visité les centres de détention et savoir que c'est des lieux de non-droit où les gens sont abusés, violentés, violés, ça serait des évacués de la Libye. Et aujourd'hui, on les renvoie, et pas seulement on les renvoie comme ça, mais sous argent public des pays européens.
Comment vos collaborateurs chez Médecins sans frontières, comment on s'ajuste devant cette réalité-là quand on est, en guillemets, dans l'illégalité pour sauver des vies? Comment on travaille?
C'est un travail qui est extrêmement difficile et puis je vous dirais que nos équipes sont extrêmement courageuses. C'est d'être un peu... C'est flirter juste sur une ligne très, 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 très fine de la légalité-illégalité en permanence. C'est de pousser les frontières, parce qu'on n'en a pas. Et c'est difficile. Et donc, par exemple, nous, on s'est fait retirer notre pavillon du bateau à l'automne. On est en négociation pour avoir un nouveau pavillon de bateau. Mais si on n'a pas ça, on n'ira pas en mer faire des sauvetages.
Est-ce que, dans plusieurs endroits, non seulement on a cette répression là, pour sortir du terrain, comme on dit, mais sentez-vous que ça peut aller plus loin que ça? Autrement dit, que beaucoup de vos collaborateurs, beaucoup de vos équipes, là, non seulement ne sont pas les bienvenus, là, mais on pourrait les sortir de force pour ne pas dire autre chose. Est-ce qu'ils sont menacés?
Je pense que, pour prendre un exemple relativement parlant, c'est quand même les attaques sur les hôpitaux qui se passent dans différents pays.
Qu'on nous présente comme étant des erreurs, souvent.
Oui.
Vous n'y croyez pas?
Mais des erreurs précises que j'appelle souvent. Ouais. Mais on fait face à cela. Et donc, moi, je rentre du Yémen il y a quelques semaines. Et sur les plusieurs milliers de centres de santé, plus de 50 % sont non fonctionnels aujourd'hui. Donc, on fait face à un système de santé qui est complètement en déliquescence et pour lesquels les gens n'ont plus accès aux soins. Et la plupart, quand on dit, sont pas fonctionnels, c'est parce qu'ils ont été attaqués. Ils ont été attaqués par des attaques aériennes. Donc, c'est vraiment... dans le passé, il était quand même... Et c'est difficile parce qu'on n'a pas, on n'a pas de repères. Mais il semble qu'aujourd'hui, de la façon dont les activités militaires sont conduites, ce qu'on appelait des sanctuaires de paix qui étaient les hôpitaux, aujourd'hui, ben, c'est une ligne rouge qu'on a traversée.
Parce qu'on a toujours cette image, exemple, de la Croix-Rouge, en disant, quand on voit le symbole et ça, comme un code international ou un Médecins sans frontières, vous dites que ça n'existe plus, là.
Ben,
ça existe, mais en tout cas moins qu'avant. Là.
C'est ça, c'est qu'on se bat pour ça, mais juste la semaine, il y a quelques semaines, on a voté une résolution au Conseil de sécurité sur le contre-terrorisme et il était dit que l'aide humanitaire pouvait être considérée comme un financement au groupe terroriste. Alors, je m'explique. Si on est dans un pays comme au Yémen, où on est sur l'opposition, où certains groupes peuvent être étiquetés terroristes, tout d'un coup, on est illégal. Nous, on fait seulement une aide médicale humanitaire. Et donc, à chaque fois, il faut négocier une exemption pour ça. C'est une façon de compliquer l'aide à tout le monde.
Je me souviens d'un cas d'un médecin britannique, je pense, là, c'est vraiment de mémoire, qui est intervenu pour une chirurgie pour sauver quelqu'un qui avait été blessé et qui s'avérait être un terroriste. Et on voulait l'accuser de complicité avec cette organisation terroriste. Or, il faisait sa job. Comme il l'a dit en entrevue, je me foutais de savoir si c'était un terroriste ou pas. Moi, je suis là pour sauver des vies. C'était ça, son intervention.
Bien, je pense qu'on l'a dit haut et fort après l'attaque à Kunduz le 3 octobre 2015 en Afghanistan, qu'on a perdu 42 personnes après 5 frappes aériennes par les États-Unis. Et ce qu'on disait, c'est qu'un patient est un patient, un combattant blessé est un patient, et le médecin de votre ennemi n'est pas votre ennemi.
Ça résume très bien. Vous parlez de cet événement en Afghanistan. Cet événement, tous les cas d'Ebola également, ça semble être les événements les plus marquants de votre passage chez Médecins sans frontières.
Mais si j'avais à résumer 6 ans de présidence, 3 mots... Ebola, l'attaque de Kunduz et la crise des migrants-réfugiés.
J'allais dire pourquoi? Pourquoi ces trois-là?
Parce que je crois qu'à chaque événement, on a passé une ligne rouge. Pour l'Ebola, c'était le fait que la ligne rouge, c'était qu'on ne peut pas attendre qu'on se sente menacé pour intervenir dans une situation de crise humanitaire médicale comme une épidémie d'Ebola, attendre qu'on se sente menacé, nous, ici. La meilleure façon d'arrêter une épidémie, c'est de la traiter où est-ce qu'elle se trouve. Pas nous, au Canada, se barricader puis fermer nos frontières. Donc ça, pour moi, c'était là. Puis je pense que le monde l'a compris quand même.
Mm-hmm.
Pour Kunduz, c'est le fait que les hôpitaux, c'est un endroit où on guérit. C'est pas un endroit de c'est pas une bataille, un champ de bataille. Et ça, c'était la chose qui a été bafouée et qui l'est encore aujourd'hui au quotidien dans différents pays. Et la troisième, c'est par rapport aux migrants. Et là, je vous dirais que c'est plus pour moi le fait que je pense que c'est plus profond. C'est que je trouve que par rapport aux migrants, on a bafoué nos engagements de base d'homme à homme, que j'appelle de notre humanité partagée, que tout le monde a des droits. Et que c'est pas parce que tu traverses une frontière que tu n'as plus le droit à la dignité et à la protection. Puis c'est pas parce qu'un parent rêve pour un futur pour ses enfants que tout d'un coup, il faut le criminaliser. Et ça, pour moi, je trouve ça terrible. Mais je dis toujours, hein, moi, je suis pas du tout neutre par rapport à ça. Je suis un produit de la migration. Et je pense que, comme bien des gens, je veux dire, j'ai apporté ma contribution.
Pour les plus jeunes qui vous écoutent ce matin et qui rêvent d'aider sur la scène internationale, j'en connais plein là, qui ne savent pas quoi, ne savent pas comment, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que ça prend? Quels sont les qu'est-ce qu'ils doivent savoir finalement sur ça? Sur l'engagement, puis de dire je vais, dans différents types de fonctions, aider les autres dans les autres pays.
Pour moi, je pense que ça commence par la conscientisation. Et de comprendre une problématique, mais c'est surtout au-delà de comprendre, il y a quand même une part d'indignation qu'il faut cultiver, parce que je pense que c'est quand on est indigné qu'on se dit « Oh là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et moi, je vais essayer de faire changer les choses. Vous avez fait la même chose, vous, avec les accidents sur la route avec votre film. Vous avez dit, wow, les moteurs.
Mm-hmm.
Vous avez apporté votre contribution.
Donc, garder, être capable encore de s'indigner.
Oui, c'est important.
Qu'est-ce que vous allez faire?
C'est la grande question qu'on me pose.
D'abord, le savez-vous?
Pour l'instant, je suis en réflexion. Je crois que, là, mes collègues de Sainte-Justine vont peut-être m'en vouloir, mais je pense que ça va être difficile de revenir à une pratique médicale à 100%. Et moi, j'essaie de trouver une façon d'articuler un engagement continu par rapport à des problématiques humanitaires internationales.
Est-ce que ça pourrait se traduire par un engagement politique? Vous me regardez avec un grand sourire. Ben, ça serait, j'allais dire, peut-être une suite logique, non?
Il y a plein de suites logiques.
Ah, vous dites pas non, là, c'est ça que je comprends.
Non, il y a plein de suites logiques, je suis en train de réfléchir.
OK. Docteur Liu, merci beaucoup d'être venu ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Vraiment apprécié. Docteur Joanne Liu, qui va quitter bientôt donc la présidence internationale de Médecins sans frontières. 9h32, on fait une pause rapide et on vient après avec le sujet de Tribune Téléphone.